Donc, je disais, on va faire court aujourd'hui sur Purim Bezrat Hashem. Allez, messieurs, si vous êtes un peu de sérieux. Donc, l'histoire de Purim, on la connaît grosso modo. Sauf qu'il y a une question, je suis sûr, qui saute aux yeux et qui nous a tous dérangés. C'est la question qu'on va développer aujourd'hui. D'ailleurs, monsieur Akos a posé cette question, c'était, je crois, Shabbat matin. Monsieur Akos, Michel. Une question très simple. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce délire? Comment c'est possible qu'un goy, Racha, soudainement, en l'espace de quelques mois, peut-être quelques années, mais bon, finalement, ça se passe en quelques mois, il allait presque réussir à tous nous exterminer. D'où ça sort, ça? Comment ça peut arriver? Le vrai patron du monde, c'est qui?
C'est Dieu.
C'est Dieu. Alors comment Dieu peut laisser un tel décret arriver? Il est évident, bien sûr que nous, on va célébrer la fête, parce qu'on a été sauvés, etc. Mais il est évident qu'il y a ici un objectif pour le peuple juif. Il y avait ici une teshuvah que Dieu attendait de la part du peuple juif. Et une fois que cette teshuvah a été obtenue, eh ben, tout s'est réglé. C'est clair. Le but du cours d'aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre quelle faute les juifs ont pu faire de tellement grave, au point qu'ils étaient tous passibles de mort. Je ne sais pas si vous imaginez, on n'a eu aucune autre fois dans l'histoire du peuple juif dans laquelle tout le peuple juif était passible de mort. Même si vous allez parler de la Shoah, dans la Shoah, ce n'était pas tout le peuple juif. C'était pas tout le peuple juif. Il y avait des pays dans le monde qui n'étaient pas concernés par ce décret. Non, presque pas, parce que Hitler et Marchemo n'avaient pas encore empris sur eux. Là, techniquement, si le décret d'Achashverosh avait marché, ce qui serait passé, c'est que le juif du monde entier, sans aucune échappatoire possible, aurait tous été exterminés, Dieu préserve. Ok ? Donc, on a dû faire quelque chose de très très grave. Pour mériter de tuer. Et donc là, d'où ma question, qu'est-ce qu'on a pu faire de tellement grave pour mériter tout ça? Alors, si vous voulez bien, on va étudier un texte de la Gemara. C'est un texte que vous avez peut-être déjà entendu. Un texte dans la Gemara Megillah, page 12. Et tout d'abord, on va dire les Chaim, d'accord? Je vois qu'il y en a qui ont déjà dit les Chaim, c'est bien. En tout cas, voilà. Bah, au Khatan, on a le Chaim, chez Akolim Zoran.
Amen.
Donc je disais, la question que tous les commentateurs se posent, c'est une question que les gens ne se posent pas en général. Parce qu'en général, on se focalise toujours sur le méchant Aman, le méchant Aman, et Dieu qui nous a sauvés. Sauf que, on est des adultes, on n'est pas des enfants. Et on doit essayer d'aller un peu plus profond pour essayer de comprendre comment ça peut arriver quelque chose comme ça. Alors je vais vous dire, si vous avez quelqu'un qui a l'esprit plutôt politique, il va dire oui, c'est arrivé parce qu'on a laissé Aman monter, on a laissé Hitler monter, on a laissé Le Pen monter, on a laissé un tel. Mais un juif qui est sensé, il comprend que c'est tellement rapide ce qui s'est passé qu'il y a quelque chose derrière. C'est évident, c'est ça votre question, monsieur Agos. Comment, c'est tellement gros que c'est pas possible que Dieu n'était pas derrière. Comment du jour au lendemain, on peut décréter de se débarrasser de millions de personnes? C'est pas possible. Tous les juifs, le même jour. Je disais que c'est une question qui est traitée dans la Gemara. Et pas par n'importe qui, par les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous allez voir la réponse qu'ils vont proposer. On va lire ensemble la Gemara, référence numéro 1. Sha'alu Talmidav et Rabbi Shimon Bar Yochai. La Gemara nous raconte que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai lui demandèrent la question qu'on vient de poser. Pourquoi les ennemis des juifs de cette génération, alors les ennemis des juifs c'est entre guillemets, en fait c'est une façon de dire les juifs, seulement on ne va pas dire les juifs, vous allez comprendre pourquoi les juifs de cette génération furent-ils passibles d'extermination? Seulement c'est tellement grave, le mot est tellement grave de dire qu'un juif est passible d'extermination, que la Gemara n'a pas envie de décrire ça, d'écrire que pourquoi les juifs furent passés d'extermination. Donc comment on fait quand on n'a pas envie d'écrire les juifs? On dit les ennemis des juifs. Alors attendez.
Les ennemis des juifs.
La question est très forte. C'est pas un exil qu'on a. En général, on est passé d'un exil. Dieu peut donner des mal. Voilà, il y a un exil, etc. Mais là, c'est très assez radical. Là, c'est extermination totale. Tout doit disparaître. Qu'est-ce qu'on a fait? D'accord. Non, mais là, c'est moins 100%. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est la question de la Gemara. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a pu faire? Alors, Amar Lahem, en bon juif, Rabbi Shimon Bar Yochai répond à ses élèves. Donc ça, c'est une question que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai lui posent. Ils lui posent votre question, notre question. Ils nous disent, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de tellement grave pour mériter l'extermination? Rabbi Shimon Bar Yochai dit à ses élèves, il leur dit, Imru Atem, dites-vous. Rabbi Shimon Bar Yochai connaît la réponse à la question. Et d'ailleurs, il va leur donner après. Seulement, il leur dit, d'abord, j'en viens donc de votre réponse. Réfléchissez, donnez-moi une réponse. Il les stimule. Alors, Amru lo, ils lui ont dit, une réponse très bizarre, qu'on va développer aujourd'hui. Parce qu'ils ont profité du repas de ce rachat. Ouais, du repas d'Achashverosh.
L'assimilation.
On va développer. D'abord, chez les Nagmara. Alors, ce qui est curieux, c'est que. Qui a dit que c'est un rêve? C'est pas écrit encore. Ce qui est curieux, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai ne remet pas en question ce qu'ils ont dit. Rabbi Shimon Bar Yochai, il leur a dit Imken, c'est comme ça. Chez Beshushan Yargu. Seuls les juifs de Suse auraient dû être mis à mort. Absolument. Parce que c'est eux qui ont profité du festin. Chez Bechol Olam Kulo, mais les juifs du monde entier, des autres 126 provinces, le Yergou, ils n'ont pas, eux vont-ils mettre à mort? Être mis à mort? Alors, ils étaient bloqués les élèves. Amroul, ils lui ont dit, est mort à ta. Ils lui ont dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, ils lui ont dit, bon alors, dis-nous toi. Amarlem, il leur a dit, Mipne Shishtachavu la Tselem. C'est parce qu'ils se sont prosternés, la tselem, à l'idole. Alors, de quelle idole on parle? Attendez, on va développer. Laissez-moi parler. D'abord, laissez-moi finir la référence numéro 1. Après, si vous avez encore des questions, vous les posez. Mais d'abord, laissez-moi arriver jusqu'à la fin de la référence numéro 1, parce que probablement, les questions que vous allez poser, je vais en parler. De quelle idole on parle? On va commencer par la fin. De quelle idole parle Rabbi Shimon Bar Yochai? En fait, à l'époque de Nabucodonosor, c'est bien longtemps avant, plusieurs siècles avant, les Juifs se sont prosternés à l'idole de Nabucodonosor. Seulement, à cette époque-là, les Juifs, ils l'ont fait sous la contrainte. Et comme ils l'ont fait sous la contrainte, Dieu ne pouvait pas régler leur compte. Parce qu'il dit, ils l'ont fait sous la contrainte. Je ne sais pas, est-ce que vraiment, eux, ils sont vraiment prosternés, ou est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas le choix? C'est pour ça que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Kadosh Baruch Hu, il a dit, pour le cas de Nabucodonosor qui s'est passé il y a quelques siècles, je ne vous règle pas le compte. Je ne vous peux pas payer. Mais par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque plusieurs siècles plus tard, les Juifs ont montré qu'ils se sont prosternés encore une fois devant Achashverosh. Ils étaient encore sous l'emprise d'Achashverosh et ils étaient là à se rabaisser devant lui. Là, Dieu, il a dit, attends, ils sont pas sous l'emprise comme avant. Il n'y a pas eu de pression comme c'était à l'époque de Nabucodonosor. Ah, pourquoi ils sont en train de se rabaisser? Donc Dieu, il dit, ça montre qu'en vérité, même à l'époque de Nabucodonosor, ils l'ont pas fait que sous la contrainte. Ils étaient bien contents de se prosterner à Nabucodonosor. Donc d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, Dieu est en train de régler un compte au Bnei Israël, un compte antérieur. C'est pas un compte antérieur. C'est qu'il leur dit, votre comportement d'aujourd'hui prouve que votre comportement antérieur n'était pas sous la contrainte, mais que quelque part au fond de vous, vous étiez à fond dedans. Ça, c'est la réponse de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord? Maintenant, on va essayer de comprendre, avant de m'arrêter sur la question de Rabbi Shimon Bar Yochai, on va essayer de comprendre la réponse des élèves de Rabbi Shimon. Vous avez bien remarqué que Rabbi Shimon n'a pas repoussé la réponse de ses élèves. Il a juste posé une question. Il a dit, votre réponse est bonne. Vous qui avez dit que pourquoi ils ont été assassinés, pourquoi ils étaient passibles d'extermination, pardon. Ouais. C'est parce qu'ils ont profité du repas d'Achashverosh. Il n'a pas repoussé leur réponse. Il a juste dit, si c'est votre réponse, c'était juste. Dans ce cas-là, seuls les juifs de Suse auraient dû être concernés par le décret et pas les autres. Seuls ceux qui ont profité concrètement du repas. Et là, j'ai une question très simple. Finalement, quel était le problème si les juifs ont profité du repas d'Achashverosh? Quel était le problème? Alors, très bien. Alors, attendez. J'ai dit, laissez-moi arriver jusqu'à la référence numéro 1. Vous allez voir, vous allez répondre à vos questions. Regardez le Midrash Rabbah juste en dessous. Attendez. Rabotai. Vous voulez les réponses ou pas? Alors, on y va. Rabbi Shimon Amar. Toutes les réponses que vous dites sont écrites ici, mais il faut laisser développer. Dans Midrash Rabbah, Rabbi Shimon nous dit la chose suivante. Il nous dit, Al Shiachlu Mitafshil Agoim. Là-bas, il nous dit que leur faute était qu'ils ont mangé des plats d'Egoïm. Ça veut dire qu'apparemment, c'était un repas non cachère. Sauf que j'ai une question à vous poser. Est-ce que sur la nourriture non cachère, on est passible d'extermination, de mort?
Non.
Le maximum qu'on est chayav, c'est quoi? Le maximum qu'on est chayav dans un comme ça, c'est pas karet, c'est la bastonnade, ou bien c'est un compte que Dieu règle comme ça, mais c'est jamais la mort. Donc ça répond pas à la question. Donc ça répond pas à la question. Comment les élèves de Rabbi Shimon ont pu donner une telle réponse? Une réponse qui n'a pas été repoussée. C'est-à-dire que pour les juifs de Suze, la réponse reste valable. Pourquoi les juifs de Suze sont passés d'extermination? Parce qu'ils ont profité d'un repas. Je dis, mais et alors? Même si le repas n'était pas cacher, est-ce que pour ça on est passé de mort? Bon, là, pour ça, on reçoit un blâme. Pour ça, on reçoit des coups. Extermination. Plus que ça. Plus que ça. Lisons ensemble la Gemara dans le traité Megillah, juste en dessous. La page 12. La Gemara reprend un passouk de la Megillah, dans laquelle il est écrit au début de la Megillah, chapitre 1, verset 8. Il est écrit, dernière partie de la référence numéro 1, la sot kirson ishvaish. Que Achashverosh se conforma au désir de chacun. Et qu'est-ce que dit la Gemara? Amar Rava, la sot kirson Mordechai ve'aman, qu'au festin d'Achashverosh, on se conforma au désir de Mordechai ainsi qu'à celui d'Aman. Alors Aman, qu'est-ce qu'il veut? Aman, il veut un jambon beurre. Et Mordechai, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la viande cachère. Et donc, d'après la Gemara, qui n'est pas d'accord avec le Midrash, le repas qui était servi au festin d'Achashverosh, qui a duré 180 jours, était un repas glat cachère Rabina Lubavitch.
Ah, en plus.
Tralak.
On est là.
Alors, où est le problème? Donc là, ça comprend rien du tout, là.
Et comment on sait que c'était kasher?
Parce que la Megillah nous dit, que Achashverosh, dans son festin, il a fait kirtson ish va ish, selon les desiderata de chacun. Et la Balak Maria dit, pourquoi c'est écrit kirtson ish va ish? Un homme et un homme. Les deux grands hommes de l'époque, c'était qui? Aman, Mordechai. Donc, Aman, il voulait la viande qu'il voulait, on lui a donné ce qu'il voulait. On lui a donné son jambon beurre. D'accord? Mordechai, il voulait la viande kasher, on lui a donné la viande kasher. Ça veut dire que le repas d'Achashverosh était glad kasher. Donc, ça ne fait qu'amplifier la question. Dans ce cas-là, quelle était la faute d'Ibn Israël? Alors, la Gemara nous dit que le problème était chez Nehenu Miseudato, chez le Toracha, qu'ils ont profité du repas d'Achashverosh. C'est-à-dire que si on suit ce que dit la Gemara, le problème n'était pas ce qu'ils ont mangé. C'est comment ils ont mangé. Profiter d'un repas. Et alors? C'est tellement grave de profiter d'un repas d'Achashverosh au point de passer de mort. On comprend rien du tout, là. Et je vais vous dire, même la réponse de Rabbi Shimon bar Yochai, on n'en comprend pas plus. Dieu qui est en train de régler un compte sur une vieille histoire qui s'est passée plusieurs siècles en avant.
Normalement, c'est réglé.
Exactement. Normalement, ces gens-là, ils sont déjà en haut. Bah oui. Ces gens-là, ils sont plus ici. Ils sont au Gan Eden. Au Gan Eden, peut-être, mais ils ont réglé leur compte. Donc, on comprend rien du tout. Évidemment. Évidemment que nous, on connaît l'histoire de Pourim, il y a eu une happy end. Tout s'est bien terminé. Bon, ça c'est clair. Il y a une happy end. Mais là, il faut revenir un peu en arrière. Comprendre. Comment c'est arrivé? Comment on est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et de dire, c'est parce qu'il y a un parti politique qui s'appelle Aman qui est monté, ça c'est pas une réponse acceptable. Pas une réponse acceptable. C'est clair qu'il y a Dieu qui est derrière tout ça. Donc je repose la question qu'ont posé les élèves de Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire de tellement grave? On a donné une réponse que Rabbi Shimon n'a pas repoussé. Il a juste dit qu'elle n'était pas appliquée partout. Il a dit que leur problème était qu'ils ont profité d'un repas. Alors, d'abord, il y a un avis qui dit que le repas n'était pas cachère. Si tu dis que le repas n'est pas cachère, d'abord, ça ne justifie pas la mort. D'autant plus que d'après la Gemara, le repas était cachère. Donc si le repas était cachère, où est le problème? Le problème n'est pas ce qu'ils ont mangé. Le problème est comment ils ont mangé. Et alors, bon, ils sont léchés les doigts, très bien. Ils ont mangé, ils ont profité du repas d'Achashverosh. Est-ce que pour ça, on tue le peuple juif entier? Qui a pété les plombs ici? Excusez-moi du terme, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce délire? Pourquoi Dieu nous a fait ça? Pourquoi on méritait ça? Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Il y a autre chose, c'est clair qu'il y a autre chose. Ouais. Mais il y a autre chose, non. C'est ce que l'Agmara dit. L'Agmara ne s'est pas trompé. Quand tu dis il y a autre chose, c'est peut-être qu'on a mal lu l'Agmara. Ah. Attends, on va voir. On va y arriver.
Ouais.
D'accord? Donc ça c'est la question qu'on pose. Et comme le rabbi dit dans un Fabringen qu'il a fait sur ça, ouais, il dit que ça, c'est un sujet qui est bizarre, une question qui est bizarre dans tout le sujet de Pourim. Ça veut dire qu'on comprend rien. Quand tu commences à analyser un peu l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qu'on leur propose? Qu'est-ce qu'on leur reproche finalement? On leur reproche quoi finalement? Ils ont profité d'un repas qui était cachère. Et alors? Il y avait un repas qui était organisé pour eux à l'Élysée. C'est ça? on leur a fait un repas glat kasher, on a kasherisé les cuisines de l'Élysée.
Dans les jardins.
Dans les jardins de l'Élysée.
Dans les jardins.
Les grands bancs.
Voilà. Où est le problème? Bon, alors c'est l'Élysée, c'est pas le Cotel. Alors, pour ça, on est passé de mort. Ça tient pas la route. Évidemment, ça tient pas la route.
Là, c'est une question.
D'accord. Bien sûr qu'il vient. Regardez, on ne leur a pas reproché d'avoir mangé. Regardez bien le terme de la Guémara. On leur a proposé d'avoir...
Manger avec l'égoïsme.
Non. Lisez ce qui est écrit.
Profiter.
Exactement, M. Benita, il l'a lu. Qu'est-ce qui est écrit? On vient de le lire. Mipne, parce que... Shenehenu misudato shel Torasha. Car ils profitèrent du repas. C'est-à-dire, c'est un problème de... C'est une bonne question que tu poses, Michael. Ça veut dire quoi, profiter? Ils ont kiffé, et alors?
Ils ont collaboré.
Mais c'était cachère.
C'était cachère, et c'est bon, c'est quoi le problème?
C'est pas le problème.
C'est quoi le problème? Bien sûr qu'ils profitent.
Les juifs des autres provinces, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas profité. Non,
ça, c'est... Deux secondes. Ça, c'est la réponse de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai leur dit, votre réponse est bonne, mais elle marche que pour Suze, pas pour les autres endroits. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas dit à ses élèves, mais Baliverne, qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez que parce qu'on a mangé un repas, on meurt? Il n'aura pas dit ça.
Non.
Il leur a dit juste, il y a un problème, c'est que ça marche que pour Suze, pas pour le reste. Il n'a pas remis en question le bien fondé de ce qu'ils ont dit. Il a juste dit que ça marchait pas partout. Mais, ça veut dire qu'il est d'accord avec leur point de vue. On est d'accord?
Ouais.
Il est d'accord avec leur point de vue que profiter d'un repas cachère, ça rend passible d'extermination. Extermination intégrale. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire?
En même temps, ça fait une barrière, le fait manger cachère.
Mais ils mangent cachère, là.
Non, mais justement, ça leur fait une barrière, en principe.
Évidemment. Où est le problème? On leur sert du vin cachère, de la viande cachère, une table cachère, une table pour... Hein? Et alors? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a peut-être une réponse, j'en ai lu tout à l'heure, et qu'on va voir, dans la référence numéro 2. Une réponse que vous avez peut-être entendue déjà, de seconde, qui dit, de seconde, je termine la référence numéro 2, « Chet Amaya Bekar », ça c'est le commentaire du Rif. Le Rif, c'est un commentaire qui a été écrit par Rabbi Yoshiyahu Pinto, qui est né en 1565. Il a vécu principalement à Tzfat, d'accord, et il s'est marié avec la sœur de Rabbi Chaim Vital. Rabbi Yoshiyahu Pinto. Et donc il a écrit le commentaire du Rif. Et il dit comme ça. Il dit « Quelle était la faute des Juifs ?» Il dit, Retam, Ayabekar, leur faute était du fait, chez Achashverosh, Asamishte, Al-Bitul, Binam, Amigdash. Achashverosh organisa un festin à l'occasion de l'abandon de la reconstruction du temple. J'explique. Bon, tout le monde savait,
Attendez, doucement.
Je vous vois pressé, c'est bien d'être pressé. Alors, tout le monde savait qu'on était exilé pour 70 ans. Seulement, Achashverosh a fait un mauvais calcul les 70 ans. Lui croyait que les 70 ans étaient déjà terminés. Et il a vu que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit. Donc qu'est-ce qu'il a compris? De là, il a compris que ça y est, les Juifs ne reconstruisent plus le temple. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un repas pour célébrer la non-construction, la non-reconstruction du Beth Amikdash. Et d'après certains avis, il a même sorti des ustensiles du Beth Amikdash qu'il avait, mais qu'il n'a jamais osé sortir parce qu'il avait peur. Et là, il a dit, c'est fini, le Beth Amikdash, c'est mort. Donc il a ressorti ses ustensiles et le repas était cachère. Mais... finalement, le but de ce repas était pour célébrer la non-reconstruction du Beth Amikdash. Et c'est ce qu'il dit, bien sûr, tout le monde le savait.
La fin du temple.
Alors attendez, je termine le riff. Il dit, V'chol Mishenene Meota Seuda, demandez rien, pas venu. V'chol Mishenene Meota Seuda, tout celui qui profite de ce repas, chaque juif qui profite de ce repas, Serge dit, ah oui, ou Yoré chez Oussamer, Roban Amikdash. Il montre, profiter d'un tel repas exprime une joie de la destruction du temple.
Ouais. Oui,
certes, c'est vrai que c'est grave. Mais, sauf que, non, moi je suis pas d'accord. D'abord, vous avez une multitude d'enfants qui n'est pas concernée par ça. Eux, ils y sont pour rien. Pourquoi ils sont passés l'extermination? Deux secondes. Premièrement. Deuxièmement, même en dehors des enfants, est-ce qu'une personne qui exprime un plaisir, une satisfaction, la destruction du temple doit être passée d'extermination pour ça? Quoi, je veux bien que tu le punisses. Punis-le. Dis-lui, tu seras puni. Tu auras le Beth Amikdash dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Tu l'exiles. Quoi, extermination, ça y est, on pète les plombs. Quoi, cette histoire? Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont habitués à l'exil, ils veulent rester en exil. On extermine tout le monde pour ça. Donc, c'est vrai que la faute est un peu plus grave, d'après le commentaire qui a expliqué le riche. C'est pas simplement une histoire de repas à manger ou pas manger. C'est le concept. Ça veut dire qu'ils étaient dans un repas dans lequel on célébrait la non-reconstruction du temple. C'est grave. Mais est-ce que pour ça, on est passé de plus d'extermination? Est-ce que pour ça c'est normal que Dieu dise que tous les juifs sont passés extermination? Évidemment, évidemment, on n'a pas encore la réponse à la question.
Mais les juifs profitaient du repas, ils n'avaient pas la cause.
Non, non, le RIF, il dit un point très juste.
Il dit, lorsque... Ils ont le repas à l'œil, ils se sont dit, c'est toujours ça à prendre.
Non, mais le RIF, il dit un point très juste, Rabbi Yoshi Pinto. Il dit, lorsqu'il y a un repas qui est organisé dans cet esprit, et que toi tu participes à ce repas, tu cautionnes ça. C'est vrai, c'est grave. C'est peut-être très grave.
Mais en réalité...
Mais est-ce que pour ça on est passible de mort, tout le peuple juif?
Non, mais en réalité, inversement proportionnel, parce que le peuple juif, quand il fait un repas, lui qui tue la bête et qui la mange, ça le met à l'abri de, justement, il est encore lié encore un peu plus à Dieu, encore, avec ce...
D'accord.
Donc, le Haman...
J'entends la question.
Moi, j'ai mangé à la table. Et lui, il était protégé par ce repas.
Moi, vous m'excusez.
Parce qu'on tue la bête.
Vous m'excusez.
Mais nous, on se tue pas.
Pour ce cours, je vais vous demander de faire l'avocat. D'accord. Attendez deux secondes. Pour ce cours, je vous demandais de faire l'avocat des juifs.
Ah bah forcément.
Ouais, bah voilà. Donc mettez-vous. Donc défendez. Défendez.
Ce repas, c'est pas par hasard.
Attendez.
Pas comme ça.
Deux secondes. Joseph. Joseph.
Voilà. Il n'y a pas accepté comme
Joseph.
J'accepte un repas avec toi. T'es mon ennemi.
Je comprends.
Je vais manger avec toi. Tu en as pas.
Mettez-vous. Imaginez que vous êtes l'avocat du peuple juif. Ouais. Vous les défendez.
Voilà, c'est ce que je vais dire.
Bah là, on est en train de dire à Dieu. Je veux bien qu'ils ont fait une faute grave. Punis-les. Mets-les au cachot. Mets-les en exil. Mais on va pas tous les exterminer pour ça. C'est clair que c'est disproportionné.
Le roi, il a annoncé l'objet de cette invitation. Pourquoi on invite donc les juifs? Ils savaient que c'était pour fêter la destruction du
temple. Bon, très bien.
Donc alors,
j'ai une question à vous poser, Monsieur Benita. J'ai une question à vous poser. Aujourd'hui, il y a des juifs qui sont négationnistes. Aujourd'hui, il y a des juifs qui sont antisionistes. Aujourd'hui, il y a des juifs qui sont anti-religieux. D'accord? Et il y a des juifs qui sont les trois en même temps. Est-ce qu'ils sont passibles de mort, d'après vous, ces juifs? Évidemment, non. Bien sûr que non. Dieu peut les punir comme il veut. Mais ils sont pas, on punit pas le peuple juif entier, les enfants y compris, pour une faute comme ça. Là, c'est pas ça, là. Là, ils sont en train de célébrer la non-reconstruction du temple. Et non, c'est même pas qu'ils sont en train de célébrer, attention. C'est qu'ils ont participé à un repas qui a été organisé à cette occasion, auquel ils ont été invités. Ils ont été invités par le roi, quand même.
Oui, mais est-ce qu'ils
savaient? Le roi, mais tout le monde savait. Ils ont été invités par le roi, on peut comprendre que c'est une tentation. T'es invité personnellement par le roi. Imagine-toi que tu reçois une carte d'invitation à la maison. T'es invité au palais royal. Tu dis pas, il fait ça parce que construction, pas construction, sans affaire. Tu viens?
Tu refuses pas. Non,
mais est-ce qu'on peut refuser au roi?
On peut refuser.
C'est une bonne question. Alors là, apparemment, ils ont profité de ça. Mais je pose la question. Même si tu dis que le problème, c'est qu'ils sont pas allés à contre-gré, à contre-cœur, et qu'ils sont partis de plein gré, est-ce que pour ça, on est passé de mort? Évidemment non. D'accord? Donc, je répète la question. Pourquoi les Bnei Israël étaient passés de mort? Pourquoi tous les Juifs du monde entier, c'est ce qu'on a dit, parce qu'il y a nulle part où aller, 127 provinces, tous les Juifs étaient dans 127 provinces. Pourquoi tout le juif était passé de mort? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas pourquoi Rajverosh a pensé à ça. Rajverosh, c'est un maboul, Aman aussi c'est un maboul. Les deux c'est des maboules. Non, peut-être pas. Aman c'est pas un maboul.
Mais alors l'idée qui consiste à dire, parce que les juifs et notamment Mordechai ne s'est pas prosterné devant Aman, c'est à la suite de quoi?
Non, alors ça c'est la réponse de Rabbi Shimon. Et vous avez raison de poser la question. Même la réponse de Rabbi Shimon n'est pas complètement compréhensible. On dit, est-ce qu'on est en train de... C'est une bonne question. Mais là, je m'arrête sur le repas pour l'instant. Oui.
Ça voudrait dire que si on a été sauvé pour la fête d'alléguer l'Esther, qu'est-ce qu'on a fait en 1945?
Non, ça ne rend pas dans des calculs comme ça. Non, c'est pas des calculs comme ça. J'en vois des calculs comme ça.
Oui, ça ne rend pas en 1945.
On a été sauvés parce qu'on a
écoutez, je vais vous répondre à la question. J'ai pas eu un traité de Talmud qui a été écrit sur la Shoah. J'ai pas Rabbi Shimon Bar Yochai face à moi. Je leur ai posé la question, mais là, je leur ai posé la question. Donc là, j'en sais rien. La Shoah, je suis pas le comptable de Dieu. Le jour où il désira de me dire pourquoi il l'a fait, il me dira s'il le désire. Par contre, là, sur Purim, on a un texte qui pose la question. Si le texte va poser la question, on dit bon, c'est la Emouna, c'est comme ça. Mais on a un texte qui a posé la question et qui a donné des réponses. Donc, si un texte a posé une question et qui a répondu, on doit chercher la réponse, on est d'accord? J'ai compris.
C'est pourquoi?
J'en sais rien pourquoi. Là, la Gemara a répondu. Donc, cette réponse doit tenir la route. Si la Gemara me dit Emouna,
pour l'Égypte, la sortie libre, on a compris ce qui s'est passé.
On n'a pas tout compris. Non, on n'a pas tout compris. Moi, j'ai pas, moi, moi, j'ai pas compris pourquoi. Et alors?
Non.
Ils ont rien demandé, ils ont pas demandé de rentrer, eux.
Ça veut dire juger. Non, mais sa manière.
Non.
Ils n'ont pas.
Mais bon, c'est pas le sujet du tout. Mais bon, si vous voulez, on parlera de ça après. C'est pas du tout le sujet. Et en plus, moi, pour moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi 12 millions de personnes sont restées sur le carreau parce qu'ils voulaient pas sortir. Ben, ils voulaient pas sortir, tu les prends, tu leur dis, vous dégagez, c'est tout, vous sortez. Ah, je m'excuse du terme, mais. Non, mais d'accord. Donc, je comprends pas. J'ai pas compris. Je dis que j'ai pas compris. Là, la Gemara a posé une question. Elle a dit pourquoi. Et elle a donné une réponse. Elle a dit parce que. Elle a dit pourquoi. Parce que. Quel est le parce que? Le parce que. Le parce que. Non, elle a donné la réponse. Le parce que, pour les Juifs du Sud, au moins, c'est parce qu'ils ont profité d'un repas. Je pose la question. J'ai d'abord profité d'un repas. D'abord, le repas était cachère. Même si le repas était, même d'abord, tu me dis, ok, d'abord, tu, peut-être que le repas n'est pas cachère, mais après, la Gemara, le repas était cachère. Alors quoi, c'est quoi le problème? Ils ont profité d'un repas pour célébrer la non-construction du temple, est-ce que pour ça on est passé de mort? Et même si pour ça on est passé de mort, qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants? Pourquoi tu tues tout le monde? Donc il faut aller plus loin. Alors, pour répondre à cette question, on va analyser, tout d'abord, donc on va passer sur un autre sujet, et on va analyser, dans la référence numéro 3, la survie miraculeuse du peuple juif dans ce monde. Comment on tient? Et vous allez comprendre que, une fois qu'on va comprendre la référence numéro 3, on aura la clé de la réponse à toutes nos questions. On va commencer par une histoire qui est raconté dans le Midrash, référence numéro 3. Une fois, Adrien, le grand Adrien qu'on connaît dans l'histoire du monde, Adrianus Amar le Rabbi Yeshua. Adrien a dit à Rabbi Yeshua, Gdola akifsa haomedet ben shivim zehivim. Grande est la brebis qui tient parmi 70 loups. Sous-entendu, c'est qui les 70 loups? C'est les nations. C'est qui la brebis? C'est nous. Et donc, en l'autre terme, Adrien est en train de dire, franchement, les Juifs, chapeau, vous êtes forts, vous êtes costauds. Vous tenez. Une brebis qui tient vos 70 loups, c'est qu'elle doit être vachement intelligente et qu'elle doit savoir, elle doit apprendre à déjouer tous les plans. Donc, il dit, bravo les Juifs. C'est ce que dit Adrien Rabbi Yeshua. En admiration. Il dit, franchement, les Juifs, chapeau. Une brebis vos 70 loups et vous tenez, chapeau. Qu'est-ce que lui répond Rabbi Yeshua? Amarle, Rabbi Yeshua, il répond, il dit, non. Il dit, Adrien, tu fais erreur. Ne crois pas que nous sommes une brebis qui tient, hein, parce qu'on est très fort et parce qu'on arrive à déjouer les plans des 70 loups. Gadol ou Aroé, grand est le berger, Shematzila, qui sauve la brebis, Veshomera, qui la sauve, qui la protège, Veshovran, Mipanea, et qui les brise, c'est-à-dire qui casse ses ennemis, Mipanea devant elle. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il veut dire?
Grâce à Dieu.
En d'autres termes, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire la bracha, c'est grâce à qui on tient? On ne tient pas grâce au fait qu'on est fort, grâce au fait qu'on a une bonne armée, grâce au fait qu'on a ce que tu veux. Grâce à qui on tient? On tient grâce à Kadosh Baruch. D'accord? C'est ce que dit le Midrash. Le Midrash nous dit quelque chose de très fort. Il dit que, d'ailleurs, là-bas, le Midrash il dit comme ça. Il dit que les Juifs, ils disent devant Kadosh Baruch, ils lui disent « Ribono Shel Olam, maître du monde ». Ils disent « Regarde comment les nations nous asservissent ». Ils n'ont pas d'autre travail que de chercher comment nous casser et comment chercher des complots contre nous. On le voit jusqu'aujourd'hui. Vous savez qu'est-ce que répond Hachem, dit le Midrash. Hachem dit, mais ils font des complots, mais à quoi ça sert? Ils font des décrets contre vous, et moi je casse ces décrets, et je casse ces décrets, et c'est eux qui prennent sur la tête. Il dit, regardez, Aman, il a voulu décréter, et surtout les Juifs, et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant ça n'a pas marché. Aman. Donc il dit, regardez, ça ne marche pas. Ok. Maintenant, il y a un principe très fort. Dit le rabbi dans l'écouté Sirot, et ça c'est la clé de la réponse d'aujourd'hui. L'écouté Sirot, référence numéro 3. Bamed, varim amourim. Dans quel cas les Juifs bénéficient effectivement de cette protection? La protection du berger, sans laquelle la brebis, depuis longtemps, elle serait mangée par les 70 loups. D'accord, hein. Mais qu'est-ce que... Ça veut dire que vous comprenez qu'on ne tient que grâce à la protection du...
Divin.
Berger.
Du bon Dieu.
Maintenant, dans quel cas tu bénéficies de la protection du berger? Kacher anagatan ubetem lazé. C'est lorsque la conduite des Juifs montre qu'ils comptent sur Dieu. Chez Somchim à la Kadosh Baruch Hu, qui compte sur Dieu. Chez Yatsilem veishmerem pour les sauver et les protéger. Lorsque la brebis, elle monte au berger, elle dit, je compte sur toi. Là, dans ce cas, le berger peut s'occuper d'elle. Il lui dit, vas-y, smash, tac, tac, ils viennent, je les enlève, tac, tac, tac. À la fin, il reste zéro loup et une brebis. Ça, c'est la condition que la brebis, elle compte sur le berger. Oui. On est d'accord? Mais, Keshem, mais Nagdim, le Shmirazo. Maintenant, imaginez une scène dans laquelle la brebis s'oppose à la protection du berger. C'est-à-dire que le berger est en train de la protéger, et la brebis le pousse, et j'ai pas besoin de toi, dégage. Ah, attendez, je vais vous montrer comment on le fait. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ben, dans ce cas-là, le berger dit, écoute, tu veux ma protection. Moi, je te punis pas, je veux pas te tirer une balle dessus. Débrouille-toi. Et là, il suffit que le berger s'en aille une seconde. Et les autres, ils en mourront pas. Mais c'est pas que le berger a puni. C'est ça la nuance. C'est pas que le berger dit, ah, t'as voulu te défaire ma protection. Je vais te punir. Je vais appeler les loups. Je vais leur dire, venez, mangez-la. Non. Ils sont déjà là, les loups. Ils sont déjà prêts. Seulement, tant qu'il y a le berger, les loups, ils osent pas, ou même s'ils avancent, tac, ils prennent des coups.
Ouais, c'est dissuasif.
Mais si tu dis au berger, c'est bon, j'ai pas besoin de toi. Et tu t'opposes à sa protection. Il peut pas protéger, tu t'opposes à sa protection. Alors, la même façon de seconde, faut qu'on explique dans l'exemple. La brebis, c'est nous, Israël. Comment Israël s'oppose à la protection du berger? Aliede shemarchivim ben hagatam et azevim. Lorsqu'un juif s'oppose à la protection divine, en montrant par sa conduite qu'il accorde de l'importance au loup, il lui dit, mais moi je suis copain du loup, c'est mon copain le loup. J'ai pas besoin du berger, regarde le loup comment il me fait des sourires. C'est mon copain. J'ai pas besoin, je m'arrange avec le loup. Je m'arrange avec les forces naturelles. Le berger dit, ah bon? T'es copain avec le loup? Il dit, mais bien sûr! Tous les loups, c'est mes copains, c'est mes grands copains! Alors Dieu, il dit, non, c'est pas, je peux m'en aller. Arem, Mavki, Matsamachas, Veshalom. Il dit, mais dans ce cas-là, la brebis, donc le peuple juif, se dépossède de la protection miraculeuse. Razveshalom. On va chrissi, Matsamach, Tachatanagatatana. Et là, du coup, il se range automatiquement sur la conduite naturelle. Et là, dès qu'on rentre sur la conduite naturelle, il leur faut pas longtemps pour... C'est vrai, regardez. Regardez, combien de pays arabes ils sont autour de nous? Combien d'arabes il y a dans le monde?
1 milliard.
1 milliard 2.
Mais voilà. Imaginez que tous les arabes du monde se liguaient contre les juifs. Franchement. Mais qu'ils y arriveraient. Ça veut dire qu'il n'y a pas la protection de Dieu. Est-ce qu'on a, avec la meilleure armée au monde?
On
peut pas tenir même un jour. C'est impossible.
Ils sont tellement bêtes qu'ils pourraient tenir.
C'est impossible. C'est illogique, non, franchement. Avec l'argent qu'ils ont, le nombre de personnes qu'ils ont, comment c'est que ça marche pas? Bien sûr. Seulement, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici qu'il y a la protection de la Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, Maïmonide, il dit ça comme ça. Maïmonide, il définit ça comme ça. Regardez les termes de Maïmonide dans le Moré à Nevouchim, dans le guide des égarés. Il dit comme ça. Regardez comment tout ce que je viens de dire, ça se résume dans deux lignes de Maïmonide, dans le guide des égarés. Moré à Nevouchim. Behasev marchavto mehachem. Lorsqu'un homme détourne sa pensée de Dieu, Asher ou Az nivdal mehachem. Et donc à ce moment-là, l'homme se détache de Dieu. Hachem nivdal mimenu. Alors Dieu se sépare aussi de lui. Vehu az mezuman. Et l'homme devient alors à ce moment-là disponible. Lechol rachef sharchim tseu. Il est à la merci de tout mal qui pourrait l'attaquer. Biyot ish mibne adam ufkar le mikre. Il devient abandonné à son sort, à la merci de tout mal. Vehi mezuman leachel ki vemot. Il pourrait être dévoré comme un animal. Ok. Vous allez me dire, mais quel rapport avec Akash Rosh? Vous allez voir comment cet élément répond à toutes les questions. C'est ça la réponse. C'est quoi la réponse? La réponse est très simple. Kadosh Baruch Hu te dit, moi je te protège. C'est un engagement que j'ai avec Avraham Avinu. C'est un engagement que j'ai avant même Avraham Avinu, depuis la création du monde. Vous êtes une brebis, mais je m'engage à vous protéger. Je m'engage à être là, non seulement à vous protéger, à déjouer les plans contre vous, à tuer vos ennemis. Mais c'est à la condition que vous compreniez que vous comptez sur moi. Que vous compreniez que c'est moi qui vous sauve. Maintenant, quand un juif, il dit à Hachem, il dit, écoute, c'est moi Hachem, t'inquiète pas, j'ai pas besoin. Moi, je suis bien, j'ai l'ONU, j'ai les nations du monde, j'ai mes entrées partout, j'ai tout ce qu'il faut. Tu dis, Hachem, j'ai pas besoin de toi. Merci beaucoup de ton aide, je me débrouille. Hachem, il dit, Mazel Tov. Dans ce cas-là, je me retire. Je te laisse jouer, je me retire. Et quand Hachem se retire, là, à ce moment-là, il a même pas besoin de te punir. La simple situation te détruit déjà. Parce que t'es tout de suite en désavantage. Alors maintenant, on va faire la référence numéro 4, après on fera une pause pour les questions. De la même façon, maintenant, on va passer à la référence numéro 4, on va expliquer comment avec ça va nous permettre de comprendre, c'est que le début, ça va nous permettre de comprendre le problème des juifs à l'époque de Ahasuerosh. Metziuto shel Racha, référence numéro 4, première partie de la réponse. Metziuto shel Racha Ahasuerosh. L'existence d'un mécréant, l'existence d'Ahasuerosh. Aïta Hashuva et Slam Adkedekar, elle était tellement importante à leurs yeux, au point qu'il considérait la participation à un repas qui est organisé par lui, d'accord ? Les kavod, c'est un honneur. Regarde, Achashverosh nous a invités. On est devenus des gens importants. Bon, on est juifs, c'est bien qu'on est juifs, mais maintenant on est des vrais, c'est du sérieux maintenant. On a reçu l'invitation du président à l'Élysée. Il m'a invité à moi. Maintenant, je suis devenu quelqu'un. Avant, j'étais un bico, maintenant, je suis devenu quelqu'un. Je dis, mais attends, avant, t'es juif? Je dis, ouais, mais juif, bon, Dieu, je connais pas Dieu. Là, c'est le loup qui m'a invité. Je suis devenu le copain du loup.
Attends.
Bien sûr, je suis copain avec le loup. Le loup m'a dit, viens, je vais te donner une nourriture des brebis. J'ai de l'herbe pour toi. J'ai tout ce qu'il faut.
J'ai de
la bonne, d'accord.
Parce que le loup, il voulait manger cachère.
J'ai tout ce qu'il faut pour toi. J'ai tout ce qu'il faut pour toi. Alors, attendez, on continue. Maintenant, tout à l'heure, Marcel a posé une bonne question. Il a dit, mais est-ce que le juif avait le choix de venir? Tu as raison. Peut-être que Mordechai, il n'est pas venu, mais il a défié. Peut-être que le juif n'avait pas vraiment le choix de venir. J'ai pas dit que tu viennes pas. Tu sais quoi? Viens. La question n'est pas, est-ce que tu es venu ou tu n'es pas venu? La question n'est pas, est-ce que tu as mangé ou tu n'as pas mangé? Est-ce que le foie gras, il était bon ou il n'était pas bon? Mange le foie gras. Mange, je ne peux pas te faire la bracha. Pas de problème. La question est-ce que tu en tires du profit? Pas le profit, est-ce que c'était bon ou c'était pas bon? On n'a rien à faire, ça. C'était bon, certainement. Est-ce que tu en tires du profit? Ça veut dire, est-ce que tu te sens valorisé par ce repas au point que tu sens que ce repas t'a rendu quelqu'un? Ça veut dire qu'en d'autres termes, c'est exactement comme la brebis qui dit au gardien, qui lui dit, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de ta protection, je me débrouille tout seul. J'ai Achashverosh qui s'occupe de moi. D'autant plus que ce Achashverosh avait organisé un festin, n'oubliez pas, pour célébrer la non-reconstruction du temple. Donc là, c'est une claque que tu mets au patron. Mais le patron, il dit, Dieu, il dit, je te punis pas, moi. Mais t'es clairement en train de me dire, j'ai pas besoin de toi, on est d'accord. Ça veut dire que tu es en train d'aller te sentir valorisé par l'invitation d'un roi qui t'invite pour célébrer la non-reconstruction de ton temple qui est mon temple. Et tu te sens valorisé par ça. Donc ça veut dire que tu t'es détaché de Dieu. Tu te dépossèdes de la protection de Dieu. Alors Dieu dit très bien, moi je te punis pas. Parce que même si c'était une punition, ça serait jamais été aussi grave. Moi je ne te punis pas, mais je retire ma protection. Le simple fait de retirer la protection de la Kadosh Baruch Hu est déjà une punition. Ou moredim atzmam tachat hashitan ativi shel hazeivim. Ça veut dire que pour être plus clair, la survie d'un juif sur cette terre est une survie miraculeuse. Dans toutes les générations. Lorsqu'un juif dit à Dieu, je n'ai pas besoin de miracle, je me débrouille naturellement, Dieu lui dit, ok, alors moi j'arrête mes miracles. J'arrête les miracles, je te laisse te débrouiller naturellement. Seulement, le problème, c'est que naturellement, on n'a aucune chance de tenir, parce qu'ils veulent tous notre peau. Tous. Ils veulent notre peau. Et nous, on n'est qu'une petite brebis. Alors, une brebis qui.
J'ai l'impression que même l'avocat, il veut notre peau.
Hein?
Il n'a pas défendu une seule fois.
Non, il y a deux avocats.
D'accord?
Il a attendu la parole.
Donc ça, c'est la clé de la réponse. Maintenant, il faut qu'on développe. D'accord? La clé de la réponse, c'est ça. Maintenant, on comprend bien combien la question. Je refais la Gemara à l'oral. Les élèves de Rabbi Shlomo Yochai lui ont posé la question.
Objection.
Qu'est-ce qu'ils lui ont posé comme question? Ils lui ont dit, pourquoi les Juifs de cette génération ont été passibles d'extermination? Qu'est-ce que répond alors Rabbi Shlomo Yochai? Il leur dit, répondez-vous, deux secondes. Dites-vous. Qu'est-ce qu'ils répondent? Ils répondent, ils disent, nous on pense que c'est parce qu'ils ont profité du repas. Regardez bien l'exactitude du langage. Ils n'ont pas dit que l'erreur était parce qu'ils ont mangé de ce repas, ou parce qu'ils ont assisté à ce repas. C'est pas ce qui est écrit dans la Gemara. Parce qu'ils ont profité de ce repas. Ça veut dire, en d'autres termes, ils se sont sentis valorisés par l'invitation du repas. Ça veut dire, vous voulez quoi? Peut-être même que s'ils n'avaient rien mangé à ce repas, c'est possible que le repas n'était pas cachère. Vous savez quoi? Ils sont venus, ils ont rien mangé. Mais ils sont venus, ils avaient un grand sourire. Ah, regarde. Le roi, il nous a invités. Si tu dis encore, je viens, j'ai pas le choix, hein. Je viens, on m'a invité, j'ai pas le choix. Bon, t'as pas le choix. Qu'est-ce qu'on va faire? Malasse.
Qu'est-ce qu'il aurait dû faire?
Eh ben, moi, je veux dire ce qu'ils auraient dû faire. C'est très simple. D'abord, c'est pas sûr qu'ils auraient dû venir. Et même s'ils devaient y aller, tout est dans leur tête. Comment ils se sentent au moment où ils rentrent dans leur tête? Au moment où ils sont en train de prendre les photos avec Achashverosh sur le perron de, sur le perron de l'Elysée. D'accord?
Oui, mais si
tu sais que, mais regarde, c'est très subtil ce que je suis en train de dire. on leur a pas interdit de venir.
De la maison blanche.
C'est pas assourd, c'est surtout si c'était cachère. On leur a pas interdit de venir. On leur a pas interdit de manger, c'était cachère. Ce qui est dérangeant, c'est l'attitude des juifs. Dieu, il dit, je vous punis pas, moi. Mais si tu es en train de me dire, j'ai pas besoin de toi, Hachem, et je me débrouille naturellement, Hachem, il dit, tu sais quoi? Je vais te laisser juste quelques semaines ou quelques jours. Et c'est ce qui s'est passé. Je vais te laisser quelques jours sans ma protection. Je te punis pas. C'est comme un fils qui est sauvé, il dit, papa, j'ai pas besoin de toi. Le père dit, ok, mon fils, moi je te punis pas, je te fais rien. Vas-y, je te laisse, je te punis pas, juste je te laisse tout seul, on va voir ce que tu veux devenir. Eh ben, tu vas voir qu'automatiquement, ça peut pas devenir. Qu'est-ce qui se passe?
Mais il passe par les voies naturelles.
C'est pas que ça dérange, c'est que...
Comme ça,
mais on peut pas tenir.
Il pouvait pas ne pas.
Un juif peut pas tenir.
Mais non.
J'ai une question, moi. Moi, je vais pas répondre.
Dans les faits, on peut pas tenir.
C'est de te défendre.
Une petite question.
Non, mais, je réponds.
J'étais assis à la table de...
David. Tu as raison. Là, tu dis comme juste, tu dis qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas besoin de Dieu. Bah, au Hachem. On est en 2018. On a une armée qui est là pour nous protéger. D'accord? On est des Français juifs. Français juifs, tu vois. Je suis Français et je suis aussi juif. Je suis citoyen. D'accord? Je comprends, je peux comprendre. Je suis valorisé par le fait que l'État français m'a accepté. Je suis content. On venait du Maroc, l'Algérie, etc. Ils sont venus. Ils nous ont donné une civilisation. Ils nous ont donné une éducation. Ils nous ont donné un métier. Ils nous ont permis d'avoir des études, on a un métier, on a, etc. Ils nous ont donné une chance, ils nous ont donné une opportunité. C'est magnifique, on leur doit tout. On dit, Dieu, t'es bien gentil. Bon, peut-être quand on était en exil, on avait besoin de toi au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Maintenant, on est en France.
On a tout en France.
On a tout en France.
Mais ces invités, s'ils n'étaient pas venus, ils auraient fait un affront au roi. Donc ils étaient obligés de venir.
C'est la question de Marcel. Je n'ai pas dit que, encore une fois, on a un problème sur la définition des mots. La Gemara n'a pas dit que leur erreur a été de venir au repas, d'assister au repas. Parce que c'est ce que je te dis, c'est la réponse de la Gemara. La Gemara te dit que leur erreur a été... Nous, moi, je suis pas dans les coulisses de Dieu, en fait. Mais les Chachamim de cette époque, ils sont dans les coulisses. Ils te disent que Dieu leur, c'est pas que Dieu leur en a voulu. Mm-hmm. Dieu leur a dit, vous refusez ma protection, je retire ma protection.
En quoi tu peux prendre de l'assurance ou de l'arrogance ou du je sais pas quoi en venant à
non, c'est pas de l'arrogance.
Non.
C'est pas de l'arrogance.
Non, mais moi, je
c'est très simple, deux secondes, question. J'entends.
Est-ce que ça fait
je vais pas répondre à cette question encore. C'est pas de l'arrogance.
C'est un manque d'humilité.
Hein? C'est pas de l'arrogance. C'est simplement le fait que tu es en train de dire à Dieu, j'ai pas besoin de ta protection, je me débrouille tout seul. En d'autres termes, c'est bien beau les miracles qu'il y a eu en Égypte, qu'il y a eu en Israël, etc. Moi, j'ai pas besoin de ça maintenant. Moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, je suis un juif français. Et je pense que je me débrouille comme un Français, ni plus ni moins. Et même comme un bon Français, il arrive à tenir. Moi, je tiens comme
moi,
un.
Demain, on passe Français. Milan. Ma chère est toujours pas là. On va faire quoi? On va s'asseoir à la table du roi et on va profiter du repas.
Mais quel rapport?
Et on va célébrer le fait que ma chère n'est pas venue.
Mais non, Chassé Shalom.
C'est même pas possible.
Qu'est-ce que tu racontes? D'abord, c'est impossible.
70 ans sont passés.
Oui.
Le temps n'est pas venu. Ça y est, on a perdu la France.
D'abord, tout le monde savait qu'il rachetait. La question n'est pas là. La question n'est pas. Là, tu vas très loin là. Non, dans ce cas, Dieu se retire. Il dit, ok, vous n'avez pas de protection, je vous l'enlève. Monsieur Bagnard, une question.
Je voulais savoir si cette nourriture-là, dont on parle, est-ce que ça fait, est-ce qu'il y a un lien avec la Torah?
C'est probable que je dors.
La Torah.
Non.
Il n'y a pas de lien. Non, parce que vous avez entendu quelque chose de cet ordre-là.
Non, ça c'est la nourriture. Ils ont mangé. Ils ont mangé un bon repas.
D'accord. Mais
avec un bon vin, ça s'écrit.
D'accord. Ça veut dire qu'en mangeant ce repas-là, ils sont sortis de la Torah.
Non, pas forcément. Non,
puisqu'ils l'ont récupéré. Mais
non, justement, ça c'est le chidouche de ce commentaire. La nouveauté j'ai entendu votre réponse. Mais la nouveauté de cette réponse, c'est qu'on est en train d'expliquer que finalement, les Juifs n'ont même pas fauté. Vous me suivez? Ça veut dire que je ne sais même pas si on peut appeler une faute ce qu'ils ont fait. C'est pas une faute. Si le repas était cachère, où est le problème? Est-ce qu'il y a une faute? C'est pas une faute. Seulement, dans leur attitude, ils ont dit à Dieu, on n'a pas besoin de toi. En d'autres termes, on est des bons citoyens. De la même façon qu'un bon Français, il tient et qu'il n'a pas besoin d'invoquer Dieu trois fois par jour. Un bon Français, il est là. Il a une vie qui tient. Il n'invoque pas du trois fois par jour.
Bon français,
pourquoi moi j'aurais besoin d'invoquer du trois fois par jour? Pourquoi moi je peux pas me sentir valorisé en étant invité par Arash Verhoche?
C'est quoi l'action, c'est leur action, ou leur parole, ou leur fait, ou leur...
Non, c'est pas une action, c'est ce que je dis encore une fois. On parle pas d'une action, on parle d'une attitude. C'est une attitude qu'ils ont eue.
Quelle attitude alors?
C'est un état d'esprit qu'on vient, on se sent valorisé par Arash Verhoche. Et on sent que maintenant, enfin, on est quelqu'un. Maintenant, avant, j'étais un juif de l'exil qui était jeté par Dieu. Maintenant, je suis valorisé par quelqu'un. Et maintenant, je me sens important. Qu'est-ce qui me rend important? C'est le fait qu'on m'a invité, que j'ai mon carton d'invitation, et que je viens avec mon nœud papillon, et que je prends des photos avec tout le monde, et qu'on me dit, et que je me sens comme tout le monde. Et je dis, maintenant, je me sens quelqu'un.
Mais c'est surtout qu'on se sent abandonné.
Non, c'est même pas ça.
Et après qu'on se sent
abandonné. Non, c'est pas ça, c'est pas ça.
Non, c'est quoi? On se sent abandonné.
Non, non, non. David, tu reprends la même direction que tu as cru tout à l'heure. C'est pas du tout ça. C'est pas abandonné. C'est pas ça. C'est pas ça. Ta réponse aurait pu être la réponse d'élève. C'est pas la réponse que tu as donnée.
Le numéro 5.
Non, ça veut dire que dans l'attitude qu'ils ont eue en allant au repas,
oui.
Ils étaient en train de montrer, mais c'est dans leur tête, c'est très subtil.
Bah oui, parce que non, il n'y a que Dieu qui
est sûr.
Mais pas tous aussi.
Ça veut dire, vous savez, le rabbi dans ses commentaires, il donne un exemple. Il dit, dans le cadre de la vie politique, il y a souvent des dirigeants communautaires qui sont amenés à être invités.
Ah oui, comment
on
fait?
Tu entends, Marcel, réponds à ta question. Dans le cadre de la vie communautaire, souvent des responsables communautaires, juifs, sont amenés à être invités par le président, par etc., par le président, à l'Élysée. Voilà. Donc bien sûr, ils vont y aller, ils doivent y aller. Et si on leur fait un repas cachère, comme c'est très souvent le cas, d'accord, ils doivent manger.
Alors voilà.
Ils vont manger. La question n'est pas est-ce qu'ils ont mangé ou n'ont pas mangé. La question est, c'est un état d'esprit. Donc là, on te dit que malheureusement, l'état d'esprit qui s'était installé à Suse. À ce moment-là, pas dans les autres provinces. L'état d'esprit qui s'est installé à Suse à ce moment-là, c'est que les Juifs disaient, on est d'abord des bons citoyens de Suse. C'est ça notre définition. Donc, en d'autres termes, j'ai pas fini. Quoi? Ça, c'est la question de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça, c'est la question de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon, il a dit, pour les autres, j'ai une autre réponse. Ok. Oui. Alors en fait, Rabotai, parce qu'il faut qu'on arrive à l'enseignement, tout ça, non mais c'est intéressant vos questions, tout ça, ça soulève une question, David il a posé une question tout à l'heure, bon qui était un petit peu fort, mais il a posé une question, il a dit, et finalement pourquoi un juif il serait pas sous les voies de la nature, c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le problème, pourquoi un juif il serait pas sous les voies de la nature, pourquoi un juif il a besoin toujours d'apprendre du miracle, miracle, laissez-moi tranquille avec vos miracles. Je vais être comme tous les Français. Je vais travailler, je vais gagner mes sous, d'accord? Je vais payer ma maison, je vais aller en vacances, je vais payer, etc. Pourquoi j'ai besoin d'avoir des miracles tout le temps? C'est une bonne question ce qu'il pose. Pourquoi j'ai besoin d'un miracle? La clé de la réponse se trouve dans la référence numéro 5. Tourne la page. Il y a un commentaire du Sifri, c'est le Midrash. Qui commente un verset dans la paracha Ré'é. Dans la paracha Ré'é, il est écrit un verset très bizarre. Il est écrit, Dieu te bénira, dans tout ce que tu feras. Alors le Sifri pose la question, il dit, je comprends pas. C'est un Midrash. Il pose la question, il dit, je comprends pas. Il dit, si Dieu me bénit, pourquoi j'ai besoin de faire? Pourquoi j'ai besoin d'agir? Et si j'agis? Si je fais, donc? Pourquoi j'ai besoin de la bénédiction de Dieu? En d'autres termes, la vraie question qu'on a ici, c'est qu'est-ce qui m'amène à Parnassa? Est-ce que ce qui m'amène à Parnassa, c'est la bénédiction de Dieu, dans ce cas-là, pourquoi je travaille? Voilà. Et si tu me dis que c'est je travaille,
donc, il faut faire.
Comme tout le monde, comme tous les pays du monde qui travaillent, qui gagnent des sous, pourquoi j'ai besoin de la bénédiction de Dieu? Alors, regardez la réponse du Sifri, qu'on va développer. Ou verracha Hashem Elokecha. Dieu te bénira. Yachol batel. J'aurais pu penser que l'homme restera passif et ne travaillera pas. Puisque tu me dis que Dieu te bénit, donc je reste passif. Talmud l'homme, b'chol asher ta'aseh. Et viens t'apprendre le verset, dans tout ce que tu feras, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut travailler. Ah, donc dans ce cas-là, s'il faut travailler, c'est-à-dire que ce n'est pas mon travail. Regardez la suite. Meïdar, cependant, alav le daou le akir, le juif doit savoir et reconnaître, she'en melarto et la asiyat keli. Il doit reconnaître que son travail n'est que la confection d'un réceptacle pour recevoir la bénédiction divine. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez la pluie qui tombe du ciel. Maintenant, vous avez envie de réceptionner cette pluie pour pas qu'elle soit perdue. Donc, vous allez préparer
un
ustensile pour réceptionner. Ou bien, un autre exemple, plus concret peut-être, vous allez ouvrir un compte en banque. Parce que vous imaginez que vous allez gagner beaucoup de sous. Et pour gagner beaucoup de sous, il faut ouvrir un compte en banque. Ou bien, il faut préparer un gros portefeuille. D'accord ? Seulement, vous comprenez bien que si une personne va s'en sortir dans les affaires et qu'il va s'occuper qu'à l'ouverture du compte en banque et qu'il ne va pas s'occuper à la façon comment l'argent va rentrer dans le compte, on lui dit, monsieur, ton compte en banque, il est bien beau, mais la création du compte, c'est bien beau. La création du réceptacle, elle est bien belle. D'accord ? Mais c'est pas ça ce qui amène des sous. Ce qui amène des sous, c'est ton travail. De la même façon. Qu'est-ce qui envoie la bénédiction ? C'est Hachem. Hachem, il te dit, toi, lorsque tu vas aller travailler, tu n'es qu'en train de créer un réceptacle pour recevoir la bénédiction que Dieu veut bien t'envoyer. Donc c'est la raison pour laquelle, bien sûr que tu dois créer le réceptacle. Et si tu ne crées pas ce réceptacle, la bracha n'aura pas où tomber. Et Dieu veut te faire gagner l'auto, on dit, monsieur, votre compte en banque, j'en ai pas. Allez, t'as pas compris. Comment on va mettre l'argent?
En espèce.
On peut pas, tu comprends, il peut pas. Ça rentre pas. Donc on te dit, non mais, vous comprenez, donc on dit, ok, très bien. On dit, tu vas aller à la Parnassa, fais la Parnassa. Pas de problème, fais la Parnassa. Mais rappelle-toi la chose suivante. Rappelle-toi que la Parnassa, c'est-à-dire ce que tu fais, ça ne reste que la confection d'un réceptacle pour recevoir la pluie de Dieu. Et qu'il n'y a que Dieu qui décide si on envoie la pluie ou pas. Quand tu es en train de venir, et ça, alors attention, et ça c'est très important à comprendre ça. Ça va peut-être vous choquer, mais c'est la vie. Et on n'y est pour rien. C'est Dieu, David, ouais, je ne t'écoute pas parce que c'est pour toi ça. C'est pour répondre à ta question. Non, c'est pour répondre à ta question. Il faut savoir ce que je vais vous dire, c'est que pour les juifs. Un non-juif, ça fonctionne pas comme ça. Un non-juif, il travaille, et avec son travail, il crée sa parnassa. Mais pour nous autres, les juifs, Dieu nous a séparés. Et il a dit, vous ne créez pas votre parnassa. C'est moi qui vous donne votre parnassa. Attendez deux secondes. Seulement, en travaillant, vous créez un réceptacle pour recevoir ce que je vous envoie. Ça, c'est uniquement juif. Chez un non-juif, c'est pas comme ça. C'est pour ça qu'un non-juif, n'a pas besoin. Un non-juif, il n'a pas besoin. Bien sûr qu'il doit servir Dieu. Même s'il ne sert pas Dieu, il peut travailler, il peut gagner. Travailler plus pour gagner plus, c'est tout. Mais chez un juif, c'est pas comme ça. Chez un juif, il doit savoir. Bon, vous êtes pas avec moi aujourd'hui, hein. Alors, chez un juif, il doit savoir que la bracha, c'est Hachem qui l'envoie. Ah, c'est Hachem qui l'envoie la bracha, dans ce cas-là, pourquoi je travaille? Tu es en train de travailler juste pour créer un réceptacle pour recevoir la bracha que tu vas envoyer. Mais si tu as un réceptacle et que tu t'occupes que du réceptacle, que de ta parnassa, et que tu t'occupes pas de ce qui va envoyer la bracha dans le réceptacle, eh ben, tu resteras avec un réceptacle vide. Un compte en banque, il peut contenir des milliards. Il peut être aussi vide. D'accord? Il peut être aussi vide. Et donc, ça, c'est la réponse. La réponse, on te dit comme ça. On te dit, les Bnei Israël, à l'époque d'Achashverosh, dans leur tête, ils se sont dit, on va continuer à faire les fêtes. On va continuer à faire le Shabbat. Ça ne nous dérange pas. On va mettre des tefillin. On va manger kasher. Bien sûr, on continue à faire ça. Mais dans notre tête, dans notre attitude, on va décider qu'à partir de maintenant, on a marre des miracles. On veut devenir comme des goïms. Ça veut dire qu'on veut. J'ai pas besoin de. Pourquoi tu parles de miracle maintenant? Pourquoi j'ai besoin de prière maintenant? Pourquoi j'ai besoin tous les matins de dire à Dieu, je t'en prie, envoie-moi la parnassa aujourd'hui? Non, je t'en prie, va travailler, tu vas gagner. Comme tout le monde. Les gens du monde entier aujourd'hui, vous avez des millions de Français qui se lèvent tous les matins. Ils disent pas à Dieu, mon Dieu, je t'en prie, fais que mon affaire marche aujourd'hui. Ils ne parlent pas comme ça. Ils se lèvent le matin, ils se lèvent, ils travaillent dur, ils gagnent bien, c'est tout. Comme tout le monde. Et c'est ça l'attitude. L'attitude, c'est que les Juifs, à l'époque d'Achashverosh, ils ont dit comme ça, ils ont dit, on n'a plus besoin de la protection. On n'a plus besoin de la protection de Dieu. On se débrouille tout seul. On se débrouille tout seul. On va travailler, on va gagner, et on va faire nos allées chez Achashverosh. Et Achashverosh, on va le respecter. On va faire comme toutes les nations. On va le respecter. Et grâce à ça, on sera valorisé par lui. Et grâce à ça, il va nous donner des postes, il va nous donner des options. On va gagner la vie, etc. Il va nous ouvrir des postes. Etc. C'est comme ça qu'on va gagner notre vie. Là, quand on entend ça, hein, on comprend que l'histoire d'Achashverosh est une histoire qui est beaucoup plus actuelle qu'elle en a l'air. C'est jusqu'à maintenant, croyez-vous, c'est une histoire qui s'est passée à Suse, là-bas, je sais pas où c'est, bon, c'est une vieille histoire. Mais là, quand on entend ça, on peut pas s'empêcher de se remettre en question. Surtout, voilà, en tant que, voilà, nous, on est arrivés, par exemple, en France. Il y en a qui sont arrivés aux États-Unis. Il y en a qui sont arrivés en Israël. Et on sait d'où on vient. On sait où on est arrivé. on sait comment ce pays nous a accueillis, hein. Douce France, ils nous ont bien accueillis, d'accord. C'est vrai. Mais c'est vrai, ils nous ont bien accueillis ou pas? Ils nous ont accueillis, ils ont tout donné. Ils nous ont tout donné. Comment avec quoi on est arrivé ici? On est arrivé avec rien. Non mais c'est vrai, ils nous ont accueillis. C'est très bien. Donc tu dis voilà. Donc du coup on a une attitude d'un juif qui va dire, moi d'abord je suis un Français. Je suis Français. Mais je suis de religion, de culte juive. C'est tout. Très fréquent, ça. La Torah te dit, c'est pas comme ça que je réfléchis. Un juif, il réfléchit. D'abord, je suis juif. Après, comme je suis français, comme je suis américain, comme je suis belge, comme je suis, etc. Donc, je dois respecter le pays dans lequel je me trouve. Donc, je dois venir au repas. D'accord? Donc, je dois venir au repas. Et quand on fait un repas cachère, je vais manger le repas cachère. Mais dans ma tête, j'ai pas perdu le repère. Dans ma tête, je sais très bien que mon vrai repère, mon vrai gardien, c'est pas le roi. Mon vrai gardien, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui le vrai gardien. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu te dit, moi je te punis pas. Mais si tu viens me dire, j'ai pas besoin de ta protection, je me retire, alors qu'est-ce que je fais? L'espace de quelques jours, je me retire. Et je te laisse. Comme un père en fait son fils dit, tu te retires? Alors ok, je me retire. Et c'est évident qu'au bout de quelques jours, l'enfant va revenir en courant et dire, papa, j'ai besoin de toi. Et c'est obligé, parce qu'il peut pas tenir. C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre Parnassa. Dans notre Parnassa, l'attitude qu'on ne doit pas avoir, c'est Chasvei Shalom de dire à Dieu, j'ai pas besoin de ta bracha. Je me débrouille tout seul. Ma vie, je gagne bien ma vie, parce que j'ai bien travaillé, donc j'ai bien gagné ma vie, et donc j'ai pas besoin de toi, Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin de tes brachotes. Je suis gentil. Je suis français, juif, donc comme je suis juif, je vais donner la tzedaka, je vais venir à des galas, je vais donner de l'argent, on va me donner mon nom, on va mettre une plaque, d'accord? Etc. Je serai quelqu'un d'honorable, quelqu'un de respectueux, mes enfants, tout le monde va dire, monsieur Intel a donné tant. Ouais, ça ne me dérange pas. Ça, je ferai. Mais dans ma tête, quand je pense aux affaires sérieuses, je dis, bon, ça, la religion, c'est bien beau, maintenant, tout ça. Dès que je sors le matin, 9h du matin, je dis, bon, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Je dis, bon, Dieu, il est bien gentil, maintenant, voilà. On passe aux affaires, maintenant.
Le problème, c'est que les opposés, tu es en train de nous dire tout l'inverse, de ce qu'un bon homme d'affaires, il doit faire.
Mais justement.
C'est ça qu'un homme d'affaires, il peut s'acquitter pas, il va travailler.
Tu as raison. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je suis en train de dire, que l'homme d'affaires, c'est une question d'attitude. On te dit, tu dois constamment te rappeler que c'est Dieu qui t'envoie la parnassa. Et ça, c'est une attitude qu'on demande qu'un juif et pas un non-juif. Parce que le non-juif, effectivement, il ne dépend pas de la bénédiction de Dieu. Le non-juif, Dieu peut lui augmenter sa bénédiction. Mais ça dépend de son travail. Mais le juif, c'est particulier.
D'accord.
Alors, deux secondes. Je voudrais rajouter le deuxième point de la réponse, que je pense que c'est une question qui dérange plusieurs ici. Je vois dans vos yeux. D'accord. Ça veut dire, on va lire ensemble une question que plusieurs ont posée. Il dit, mais on n'a pas le choix. Bon. On n'a pas le choix, on doit honorer le roi. Qu'est-ce que tu veux? On est en galoute, on doit honorer le roi. D'ailleurs, Yaakov, lorsqu'il est venu...
Je sais que c'est ça. Pardon, monsieur.
Yaakov, lorsqu'il est arrivé en Égypte, est-ce que Yaakov n'a pas donné du kavod à Paro? C'est sûr qu'il a donné du kavod. Encore une fois, on te dit, le problème n'est pas que les juifs ont donné du kavod à Achashverosh. C'est normal de donner du kavod, c'est même une obligation. On a étudié ce dimanche matin dans la Gemara qu'il faut donner du kavod au roi des nations. Il faut leur donner du kavod. D'accord? La question n'est pas est-ce qu'il faut donner du kavod ou pas. La question est dans ta tête, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que maintenant, t'as plus besoin de Dieu, que tu débrouilles avec Achashverosh? Ou est-ce qu'au fond de toi, tu sais que tu dépends que d'Akadosh Baruch Hu? C'est une question d'attitude. Dieu te dit, moi je te punis pas. Mais si tu décides de te retirer, moi aussi je me retire. Juste le temps que tu comprennes que tu comprennes, t'as fait une gaffe. Maintenant, avec ça, on va comprendre plusieurs choses. Je vais te donner juste quelques points, après on fera pour les questions. Vous savez, la fête de Pourim, c'est la fête qui nous parle le plus en exil. Pourquoi? Parce que c'est une fête qui se passe en exil, complètement, du début jusqu'à la fin. Elle commence en exil, elle finit en exil. Pas seulement ça. Est-ce que vous avez remarqué que dans toute la Megillat Esther, le nom de Dieu n'est pas écrit ne serait-ce qu'une seule fois? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est exactement ce qui se passe en exil. Celui qui ne veut pas voir la main de Dieu derrière toute l'histoire de Pourim, il peut te dire... C'est une simple histoire politique. Je m'excuse, mais je vais vous détruire le miracle de Pourim maintenant. Dans les quelques secondes qui vont suivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un parti politique, d'accord, Front National, qui est venu et qui a commencé à monter en trombe et qui malheureusement a été élu et qui a réussi à faire passer à l'Assemblée Nationale un décret de tuer tous les juifs. Bon, ensuite, on est à l'époque où il y a un roi et que le roi, il a son mot à dire sur tout. Et le roi, il s'avère qu'il a une reine. Cette reine, il ne sait pas qu'elle est juive. Et cette reine, elle va user de son charme devant le roi. Et elle va dire au roi, écoute, je suis juive. Donc le roi, il va dire, comme il est fou, donc il est tellement imprévisible. Donc le roi, il va dire, bah, dans ce cas-là, eh ben, c'est pas vous qu'on va tuer, c'est l'autre qu'on va tuer. Et l'affaire a été réglée. Donc c'est une histoire de lobbying. Finalement, c'est ça pour Rim.
De manipulation.
Ça veut dire qu'il y a eu un parti qui a cherché à manipuler. Et après, de l'autre part derrière, il y a eu un autre parti, enfin, qui a tiré les bonnes ficelles, qui est passé par Esther, qui a fait du bon lobbying, et grâce à ça, tout a été réglé. Vous avez vu que j'ai pas, c'est ça l'histoire. Donc vous avez vu que j'ai pas cité le nom de Dieu une seule fois ici. C'est-à-dire, celui qui veut vivre l'histoire de Pourim, sans dire le nom de Dieu, en croyant qu'une simple histoire de lobbying, ça c'est l'histoire qu'il y a dans tous les pays, il peut dire, c'est une histoire dans laquelle il n'y a pas Dieu. Et c'est pour ça que Pourim, c'est une histoire qui nous parle, parce que c'est exactement ce qu'on vit en exil. Aujourd'hui, il y a des galères qui arrivent aux Juifs. Et ben, au Hachem, on en est sauvés. Même quand il y a des galères qui nous arrivent, un Juif peut dire, non, ça c'est pas Dieu. En fait, c'est parce que lui, il est monté. C'est à cause de Madame Le Pen, elle est montée. Et donc, elle est montée, il y a eu ça. Je dis, mais t'as pas compris? Tu voyais pas qu'elle était à deux doigts de passer? Et que Hachem, il a fait qu'elle a raté son interview et d'autres bêtises qu'elle a fait, qu'elle est tombée. T'as pas compris? Toute personne qui a suivi l'actualité l'année dernière, je suppose, sans ce que je sens, c'est qu'on a senti, non mais attendez, on a senti, c'est un miracle moderne, c'est un miracle.
Elle devait le bouffer.
Elle le bouffe. C'est clair, elle a beaucoup plus d'expérience que lui. Et pourtant, on a vu comment Hachem a géré les choses. Maintenant, celui qui veut pas voir la main de Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire non. Il va dire, bah, c'est une madame qui est montée, et après, il y a eu, après, elle a mal été accompagnée, elle a mal été conseillée, elle a mal été, etc., elle a été déstabilisée par, etc., c'est une femme, c'est un homme, on peut trouver 10 000 raisons. Des raisons, tu peux en trouver. Si tu veux éviter de dire le nom de Dieu, il n'y a pas Dieu qui est venu te voir, qui dit bonjour, j'arrive, je la défonce, d'accord? Dieu n'a pas dit ça. Mais Dieu, il l'a fait. Dieu, il l'a fait. Tu comprends? Dieu, il l'a fait, ça. Seulement voilà. Non, Kadosh Baruch Hu, il l'a pas dit. Et c'est ça pour Him. C'est pour ça qu'on dit tout, dans tout pour Him, le nom de Dieu n'est pas écrit. Si tu veux croire que c'est une histoire politique, crois que c'est une histoire politique. Et ça marche aussi. L'histoire, elle marche parfaitement pareil. C'est pour ça, dans toute la Megillah, il n'y a pas un miracle dans lequel l'eau se transforme en sang, et Dieu qui descend, une voix qui sort du ciel. Je suis l'éternel ton Dieu. J'arrive. I'm coming. Je suis là. Allez. Amen. C'est terminé. C'est terminé le cirque. Non? Y a pas tout ça.
Amène tes oreilles.
D'accord. Non, y a pas tout ça. Y a pas tout ça. Parce que c'est une histoire qui se passe en exil. Et ben c'est exactement notre histoire quand on est en exil. On a des événements qui se passent. Alors ça c'est un événement évidemment majeur. Quand on parle d'un décret d'extermination et on est sauvé. Mais il y a plein de micro-problèmes comme ça. Chacun de nous dans sa parnassa, dans la vie de tous les jours. Des problèmes et des solutions qui arrivent. Mmh. Et qui arrivent aussi rapidement que les problèmes. Mmh. Celui qui veut ne pas voir Dieu, il dit bon, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pas Dieu, c'est un hasard. Ça s'est passé comme ça. J'ai eu un coup de chance, un coup de peau. Ça s'est bien passé pour moi. Tant mieux pour moi. Très bien, tu peux croire comme ça. Sauf que si tu fais ça, tu n'as pas compris que toute ta parnassa, c'est que un réceptacle. Tu crées le réceptacle. Celui qui met dedans, c'est Akadosh Baruch Hu. Et quand Akadosh Baruch Hu voit que tu fais un peu le malin, alors ça n'explique pas tout, parce qu'évidemment, on n'est pas les comptables de Dieu. Quand Akadosh Baruch Hu voit que tu fais le malin, ben Akadosh Baruch Hu dit, bon, dans ce cas-là, j'arrête de te protéger. Akadosh Baruch Hu te dit, je retire ma protection dans le sens que ma protection n'est pas active. Elle est toujours là, mais elle n'est pas active. Maintenant, je vais terminer avec un point pour expliquer comment le miracle de Pourim s'est passé justement lorsque les Juifs ont compris ça. Regardez, et je vais terminer avec ça. Comment se termine l'histoire de Pourim? Mordechai a demandé à la reine Esther d'aller voir Achashverosh. C'est très compliqué parce qu'elle a dit, mais il ne m'a pas appelé, ça fait un mois qu'il ne m'a pas appelé. Donc elle ne peut pas aller le voir. C'est-à-dire avec les règles, la logique, il faut attendre qu'elle appelle. On envoie une demande officielle, etc. On ne vient pas comme ça. Il peut lui couper la tête. Il coupe la tête, c'est un roi, il fait ce qu'il veut. Bon. Alors après, si je réfléchis en tant qu'être humain et que je suis en train de concocter le plan, je dis bon, on va dire à la reine Esther, fais-toi la plus belle possible, utilise tous tes atouts possibles, tu viens, tu arrives, il va craquer, tout va bien se passer. Maintenant, qu'est-ce que fait la reine Esther? Regardez comment elle fait pile le contraire. La reine Esther, elle dit à tout le monde, elle dit vous allez tous jeûner, et moi aussi je vais jeûner. Nuit et jour. Ça veut dire jeûner, donc le jour et la nuit, 3 jours. D'après vous, une femme qui a jeûné 3 jours. Déjà, nous, on jeûne 1 jour, de quoi on a l'air? Imaginez une femme, de quoi elle a l'air après 3 jours de jeûne?
Sans maquillage.
Avec tout le maquillage que tu veux. C'est mort. C'est rien à faire. Alors, je comprends pas. Et la reine Esther, elle dit comme ça. Elle dit au bout de 3 jours, apparemment sans manger, j'irai le voir comme ça. C'est pas logique, ça. J'ai dit, attends, tout le monde va jeûner, mais toi, tu jeûnes pas, toi. Toi, tu vas te maquiller, tu vas passer des heures, tu vas faire des brushings, tu vas faire des trucs. C'est pas toi de te, c'est pas, toi, tu vas te maquiller. Elle dit non. Pourquoi? Parce que la reine Esther a compris ce qu'on vient d'expliquer. La reine Esther a compris qu'en vérité, l'objectif d'Akadosh Baruch Hu dans tout ce décret, c'était de nous remettre en question et de montrer que celui qui nous sauve, c'est Akadosh Baruch Hu. Et elle a compris, c'est la reine Esther. D'ailleurs, la reine Esther, au début, elle n'a pas compris ça. La reine Esther, au début, elle a dit, écoute, je vais voir, etc. Mordechai, il était très dur avec elle. Il a dit, écoute-moi bien. Si c'est pas toi qui feras, Revarvat Salah, Yamod Laoudi, mais comme rien. Le salut viendra d'ailleurs, et toi, à la maison de ton père, vous périrez. Ah oui, voilà. C'est-à-dire, il lui dit, écoute, parce qu'en d'autres termes, Mordechai, il est en train d'expliquer aux gens l'enjeu du problème. Il dit, arrêtez de croire que c'est un problème d'un parti politique, on va s'occuper de ce parti, on va essayer de le déstabiliser, de les casser. Il dit, ça, c'est un pion, ça. C'est rien, ça. Le vrai problème, c'est pas ça. Le vrai problème, il est en haut. On l'a oublié, celui qui est en haut. Et la reine Esther, elle a compris ça. Quand Mordechai dit ça, elle a compris. Elle a eu la présence d'esprit. Elle a dit, c'est bon, j'ai compris. Elle a dit, tout le monde va jeûner. Moi aussi, inclus, j'ai jeûné. Elle a jeûné 3 jours. Elle est venue comme ça. Et elle a montré, grâce à ça, elle a montré que tout le salut ne tient pas sur le bon vouloir d'Achashverosh. Tout le salut tient sur la main d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, dans ce cas-là, pourquoi elle va voir Achashverosh? Aller voir Achashverosh, c'est que le réceptacle pour recevoir la bracha d'Hachem. C'est tout. Parce que si Hachem laissait d'envoyer la bracha, même si elle est moche, il dira oui. D'ailleurs, elle n'était pas belle. Vous savez qu'elle n'était pas... Bon, on dit qu'elle avait, il y en a qui disent qu'elle avait du charme, etc. Mais ça veut dire quand c'est Hachem qui a décidé, tout peut être beau. Quand Hachem n'a pas décidé, tout est moche. Elle a compris ça. Alors, de la même façon, là, on comprend maintenant, nous aussi. Et là, on va tirer un enseignement, on va s'arrêter là. Tout ce que je vous dis, c'est écrit ici, vous pourrez le voir après chez vous, si vous voulez, dans toutes les références ici. De la même façon. On lui dit la chose suivante. On lui dit, l'enseignement qu'on doit tirer, pour nous, dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Un juif, il doit savoir que sa vie principale, ce qui le fait vibrer, c'est la vie de sa neshama. Ma vie, la vie de mon âme. Ça veut dire la Torah, les mitzvot. Et que tout ce que je fais pour mon corps, ce que je mange, ce que je dors, ce que je bois, ce que je travaille, c'est un réceptacle, je le fais parce que j'ai pas le choix. Est-ce qu'on est à ce niveau-là? Je sais pas. Mais en tout cas, il faut aller travailler dans ce sens. Et surtout, bien se rappeler. Quand vous allez sortir dehors de ce cours, dans le froid, vous allez affronter le froid pour rentrer chez vous, eh ben, vous allez voir beaucoup de gens dans la rue. Eh ben, dites-vous, chaque personne qui passe dans la rue, dites-vous, je ne suis pas comme lui. Lui, deux secondes, sauf si c'est un juif. Dites-vous, lui, pas pour, attention. Mais le rabbi nous dit que chaque mérite est associé à une responsabilité. Le mérite qu'on a, c'est qu'on n'est pas comme tout le monde. Eux, leur conduite est naturelle. Ça veut dire que même un non-juif qui oublie Dieu pendant 50 ans, il vivra. C'est pas, Dieu dit, bon, je fais des bilans tous les quelques dizaines d'années pour voir comment ça va globalement. Nous, on est jugés chaque année. Pas que chaque année. Quelle chaque année? Chaque année, chaque Rosh Chodesh, chaque jour, 3 fois par jour. Chaque Amidan est jugé. Vous avez vu ça? Tiens, arrête de me juger, ça suffit. Pourquoi tu me juges comme ça? Le non-juif, tu lui dis, bon, tous les quelques dizaines d'années, tous les quelques décennies, je vois ce pays. Bon, ce pays, il a pas assuré, allez, bon, on va le faire un peu tomber, on ramènera. Mais nous, c'est pas comme ça. C'est écrit que la terre d'Israël, c'est une terre sur laquelle les yeux de Dieu sont rivés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire que Dieu ne nous lâche pas. Il nous lâche pas, mais c'est, attention, il nous lâche pas. C'est un mérite. C'est-à-dire, Dieu dit, toi, je te lâche pas. Toi, je m'occupe de toi, c'est moi qui te souviens de tous tes besoins. Mais d'un autre côté, ce mérite est associé à une responsabilité. C'est quoi la responsabilité? C'est que Dieu, il te dit, si tu décides de vouloir agir comme les autres, je parle pas de ce que tu fais, je parle de ce que tu es, ce que tu penses, ben, Dieu dit, dans ce cas-là, de temps en temps, j'enlève ma protection. Et on va voir si tu vas vraiment tenir ou pas. Et c'est ça le message de Pourim. C'est un message qui est vraiment actuel. Pour moi, la fête qui nous parle le plus en exil, c'est Pourim. Parce que ça représente ce qu'on vit. Ça représente notre challenge aujourd'hui, ça. Hanouka, c'est une fête qui a commencé peut-être un peu en exil, mais même pas d'ailleurs, un peu en exil. C'est terminé, Beth Amikdash, ça n'a rien à voir. Pourim, c'est une histoire qui se passe du début jusqu'à la fin. Même lorsque l'histoire de Pourim est réglée, on est encore en exil. Les Juifs sont encore en Perse, sont encore dans leur pays.
C'est ça justement, cette question-là. C'est quand il, c'est Hachem qui les met dehors à coups de pied. On dit qu'après, d'un autre côté, on dit que la Shrina, elle a sauté comme ça.
Oui.
Voilà. C'est-à-dire qu'elle est toujours attachée à eux.
Bien sûr, c'est la question de David. Bien sûr que la Shrina reste attachée à nous. Dieu ne nous quitte pas. Mais il fait comme si qu'il n'est pas là.
C'est voile.
Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que c'est même pas qu'il se met en retrait, c'est qu'il fait comme si qu'il n'est pas là. Il dit, je vais arrêter de montrer au loup que je suis là.
Exactement.
Donc dès que le gardien arrête de se montrer au loup, il se cache.
Mais il a pas créé toutes les créatures.
Le loup t'attaque. Pourtant, donc quand le gardien était là, il dit, mais regarde, le loup il est gentil. Il me fait coucou. Il est gentil avec moi. Mais il est gentil avec toi parce qu'il y avait le gardien derrière. S'il n'y a pas le gardien derrière, laisse tomber, tu oublies. Et ça, on ne veut pas comprendre. Quand on s'habitue à la galoute, tu vois, on dit, voilà, je suis bien maintenant. Je dis, c'est bon. Hachem, t'es bien gentil, mais je me débrouille. Je viendrai à la synagogue, t'inquiète pas. Pendant la journée, à Rome, comporte-toi comme un Romain. Eh ben non.
C'est le pape, hein,
on a l'impression qu'il est comme lui.
Quand tu vas voir savez, je vais vous donner, moi je vais vous donner un truc. Des fois je vois des gens, qui sortent de la synagogue, ils enlèvent la kippa. Je termine avec un exemple. Des fois j'ai des gens qui sortent de la synagogue, ils enlèvent la kippa. Bon. On peut comprendre que pas tout le monde est au niveau de garder la kippa tout en son lit, d'accord. Mais il y a deux catégories d'enlever la kippa. T'as celui qui enlève la kippa, bon, je sais pas à côté, je suis pas envie d'enlever la kippa trop longtemps. T'as celui qui enlève la kippa, tu sens que c'est un peu à contre-cœur, il a pas le choix, il enlève la kippa, il met sa casquette, autre chose, il enlève la kippa. T'as celui qui enlève la kippa, tu vois, il enlève la kippa, il la plie bien, il la plie bien, il la met dans la poche, il tape dans la poche, du style c'est bon, ça c'est affaire classée. Maintenant, je vais être comme un homme. Ça, c'est très subtil ce qu'on dit ici. Et Dieu nous envoie des rappels pour ça. Et donc ça, on a bien comprendre ça dans notre parnassa, dans tout, que ce qui est la source de la beracha, c'est pas notre investissement. Notre investissement, c'est uniquement ce qui crée le keli, le réceptacle. Ça, c'est que pour nous que c'est la règle. Et c'est pas normal, c'est pas juste. C'est que pour nous. Pour les goyim, c'est pas comme ça.
Deux remarques, si tu permets.
Alors, deux secondes, je serais qu'à commencer une question, oui.
On a des circonstances atténuantes, c'est toujours les mêmes.
Oui, mais attends.
La circonstance atténuante dans cette affaire-là, c'est qu'il y a des voiles sur des voiles, et des voiles sur des voiles, ça fait un moment donné.
Mais il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. Mais
deux secondes. Il n'y a pas de problème. Hachem, il te dit, je ne t'ai pas puni. Je ne te punis pas.
Comment tu te retires le Louis d'arrêt?
Non, je t'ai pas puni. Tu dis, j'ai pas besoin du garde. Le garde, il dit, alors dans ce cas-là, je vais me cacher quelques instants et tu vas comprendre ce qui se passe quand je suis pas là.
Parce que la nature c'est de tout. Loup, c'est toujours de
et tout de suite, et tout de suite. La première dit, oh, au secours! Il revient tout de suite. C'est ce qui s'est passé. Il est revenu. Ça veut dire, dès l'instant, le problème, c'est que pendant l'histoire de Pourim a duré plusieurs années. Parce que pendant plusieurs années, au début, les Juifs n'ont pas voulu voir le vrai problème. Ils sont occupés de l'aspect politique du problème. Comme tout le monde, comme nous on aurait fait. Et le problème n'a pas été réglé. Mais à un moment, à la fin, Mordechai il a dit, bon, laisse tomber. Les adultes, c'est mort, ça marche pas avec eux. Il a pris les enfants. Eux, les enfants, ils ont compris. Il leur a dit, écoutez, il y a un problème. Il faut raffermir notre attachement avec Hachem. Il les a rassemblés, 22 000 enfants sur la place de Suse. Il leur a dit, écoutez-moi bien, on bouge pas d'ici tant qu'on m'annonce pas dans le décret annulé. En 4 heures, l'histoire était réglée.
Michel, t'as compris?
C'est tout.
22 000, ils étaient. Nous, on peut revenir 600 000.
Vous comprenez? Ça veut dire voilà. Ça veut dire qu'à un moment, il y a un déclic, on comprend le problème, on comprend où on s'est planté, les enfants, ils reviennent, ils ramènent les parents, et c'est fini, l'affaire est cassée.
22 000 ou 24 000?
22 000.
22 000. Deux petites remarques par rapport à cette histoire de Hachem qui nous envoie la parnassa. Je ne sais plus dans quel paracha ou dans quel Gemara, il y a une phrase qui dit Hachem bénit les Israël, les Israël bénit Hachem.
Oui.
Et deuxièmement, on nous dit, dès le début, tous les ans, à la même période, à Rosh Hashanah, on décide quel va être le montant de la parnassa toute l'année.
On est rejugé chaque jour.
Mais on est jugé sur le coup pour faire en sorte que elle descend de manière fluide. Maintenant, elle ne peut pas descendre de manière fluide, cette parnassa, si on n'a pas fait tout ce qu'il fallait, d'accord, si on a mis des barrages, oui. On a mis des filtres, etc. Donc là, quand est-ce qu'on ça bloque? Ça bloque à partir du moment où on est dans une démarche d'assimilation, deux, ça marche dans le fait que on reconnaît pas que l'intégralité de tout ce qui existe sur Terre et de tout ce qu'on fait nous, à travers y compris la prod, dépend d'Hachem. Donc c'est pour ça que et pourquoi
c'est même pas une sanction, c'est pas une sanction.
Par contre, c'est une sanction, mais sans être une punition.
Voilà. C'est pas une punition. Voilà. Je me retire. C'est tout.
Maintenant,
ça a rentré.
Pourquoi ça a marché l'approche de la démarche de Mordechai avec les 22 000 enfants? Pour une simple bonne raison. Parce que quelle était la force et la qualité première de Mordechai? C'était la tefila. Et sa tefila a été reçue, acceptée en haut, parce que dans le texte, on nous fait référence à trois individus qui avaient exactement la même caractéristique que Mordechai, qui était de faire de prendre la tefila comme étant le moyen le plus direct de se connecter à Hachem pour la tshuva. Et là-haut,
qui des quatre entre Abraham, Yitzhak, Yaakov et Moshe avait cette qualité-là? C'était Moshe. Et la tefila de Moshe était connectée avec celle de Mordechai, c'est pour ça que ça a marché.
Razak. On peut. Moi, ça veut dire, à mon avis, le point principal ici.
Et là, pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu.
J'entends. À mon avis, le point principal ici, c'est qu'il fallait une prise de conscience.
Ben, c'est là.
Voilà.
Et c'est ça. C'est
il manquait une prise de conscience des bénis Israël, qu'on dépend de Dieu, c'est tout. Un juif dépend de Dieu.
Et ben, c'est ce qu'il a
il
fait.
Il dépend pas de ses affaires, il dépend pas de Macron.
Non.
Il dépend de personne, il dépend de Dieu.
C'est ce
ça fait. Passe par Macron, mais il dépend de Dieu, c'est tout.
C'est ce qu'a fait Mordechai avec les 22.
Non, mais on va donner un exemple. Par exemple,
Trump, oui. Bah, un juif, il dépend pas de Trump.
Non.
C'est vrai que le bienfait d'Israël est passé par Trump.
Mais on est bien content d'avoir Trump.
On est bien content, mais c'est Dieu qui l'a envoyé.
Voilà, c'est ça.
C'est là la nuance.
Le 14 mai, il déménage de l'ambassade.
Ouais.